Voilà donc, bonjour chères auditrices, chers auditeurs. Vous êtes en direct sur les ondes de Radio Centre-Ville, 102.3 FM, avec votre émission, bien sûr, du mouvement Action Justice, une émission consacrée exclusivement à dénoncer les abus de pouvoir et les injustices dans notre société contemporaine. Alors voilà, nous approchons bien sûr du 4 septembre, donc une date historique, puisque, comme le disait aussi bien l'ancien ministre de la Justice, Marc Bellemare, c'est l'heure du jugement pour Jean Charest. Tous les sondages annoncent que le Parti libéral est hors concurrence, sauf quelques circonscriptions et encore, on parle de Taschereau, Laval des Rapides et encore, je ne suis pas tellement certain. Donc, mais selon le chef libéral, Jean Charest, tous les sondages sur les intentions de vote qui le placent en dernière position ne sont pas fiables. Toujours selon Jean Charest, les autres partis en course à la direction du gouvernement ne sont pas non plus fiables. Leurs idées, leurs projets ne sont pas fiables. La révolte populaire et le printemps érable n'est pas fiable. La crise étudiante qui a déstabilisé le système en place n'est pas fiable non plus. Le bruit des casseroles qui a résonné presque dans tous les foyers québécoises n'est pas fiable. L'appel plutôt de toutes celles et ceux qui lui ont dit non n'est pas fiable non plus. Le changement réclamé en urgence par la population n'est pas fiable non plus. Donc Jean Charest essaye de nous expliquer et peut-être tenter aussi de nous convaincre qu'il n'y a que lui et lui seul qui est fiable. Selon son plan Nord est fiable, c'est comme le Nord n'a jamais existé et Jean Charest vient de le découvrir. Hein. La loi 78 et la répression est fiable selon Jean Charest. Enrichir les plus riches et appauvrir les plus pauvres, c'est fiable. La province la plus corrompue plus au Canada, c'est fiable. Ce n'est pas ni négocier encore moins d'être attentif aux plaintes des citoyens, selon Jean Charest, c'est fiable. L'injustice et l'abus de pouvoir qui frappent les citoyens tous les jours, hein, c'est encore fiable dans l'arène de Jean Charest. L'hypocrisie de la politique, selon Jean Charest, c'est fiable. Question cette semaine, il était questionné par, cette semaine par le journal de Le Métro, le prochain gouvernement également régler le conflit étudiant une fois pour toutes. Enfin, on a posé la question, est-ce que vraiment le prochain gouvernement il va régler la question du conflit étudiant une fois pour toutes? Écoutez la réponse de Jean Charest et sans aucune gêne, il répondait. Jean Charest disait qu'on a toujours gardé la porte ouverte et on a tendu la main aux représentants des associations étudiantes. Alors qu'en réalité, la vraie réponse, on a toujours gardé la porte fermée et nous avons replié et empêché toute main aux représentants des associations étudiantes. Alors vous voyez, ce type, comment il ne se gêne pas de dire tout à fait le contraire de ce qu'il fait. Maintenant, revenons à cette question des sondages. Jean Charest avait déclaré publiquement qu'il ne fait plus confiance aux sondages. Il ajoute aussi que ces sondages influencent le vote du 4 septembre. Autrement dit, même sa défaite annoncée d'avant, selon lui, elle n'est pas fiable. Finalement, pour Jean Charest, le dernier mot des citoyens, individuels ou collectifs, n'est pas fiable, puisque selon lui, ils sont influencés par un courant contraire. Et pour conclure, pour Jean Charest, tous celles et ceux qui ne partagent pas ses idées forcément ne sont pas fiables. Imaginez-vous, chère auditrice, chers auditeurs, que dans sa propre circonscription de Sherbrooke, Jean Charest va fort probable perdre son poste de député libéral, puisque les sondages le prévoient ouvertement, et c'est ce que tout le monde le souhaite. Vous voyez, Maître Bellemare, ce n'est pas juste vous qui souhaitez la disparition de la scène politique de Jean Charest, et ses troupes, justement marionnettes, c'est le vœu de la grande majorité des citoyens du Québec. Et ça sera bien sûr, évidemment, une vraie victoire, une réponse claire et nette à Jean Charest, que sa politique n'est pas du tout, mais pas du tout fiable. Maintenant, il est tout à fait vrai qu'une partie de la population ne sait plus lequel des trois candidats devra choisir. Ces gens-là, on les appelle les indécis. Et je dirais, pas comme certains qui sont peu scolarisés, je dirais plutôt qu'ils ne s'intéressent pas, mais pas du tout à la politique. C'est des gens qui voient flou devant eux. L'avenir pour eux est hypothétique, donc ils sont émergés par les aires de travail ou bien pour d'autres par le chômage, par la misère, par les énormes difficultés de la vie de tous les jours. Alors ne vient pas surtout leur chanter la chanson électorale. Ils ne sont pas intéressés et ils nous les comprennent très bien. Mais ces gens-là, au fond d'eux, ils sont en quête de l'égalité, de la considération, d'une justice sociale longtemps espérée et souhaitée. Ils cherchent un peu de leur dignité, souvent violée et éparpillée dans les coulisses de l'injustice. Ne viens surtout pas, mon cher monsieur, surtout pas les embêter par des promesses qui ne s'envolent et qui s'envolent, qui s'évaporent le deuxième jour du scrutin. Ces gens-là, pour la plupart, ils ne croient plus à rien. Mais une chose est certaine, c'est qu'ils ont, ou plutôt qu'ils sont tous des gauches. Ils n'ont pas le choix de l'être parce qu'ils ont besoin de l'aide, de la lumière sécuritaire dans une société qui nage dans l'incertitude. De son côté, vous le savez probablement mieux que moi, Jean Charest menace cette population indécise, cette catégorie des citoyens qui hésitent pour qui vont voter. Il profite ces derniers jours avant le jour des élections pour faire peur à ces gens-là, dont le choix est toujours, bien sûr, suspendu. Jean Charest, d'abord, utilise la ruse même dans ses derniers soufflons politiques. Il met ces gens-là en garde contre ce qu'il appelle la culture de la chicane. Autrement dit, il dit à haute voix, si vous choisissez un autre parti que le mien, vous allez le regretter. Avec les autres, il n'y a que les chicanes et les problèmes, alors qu'avec moi, vous connaissez la règle, vous fermez votre gueule et vous continuez la route. Vous savez aussi, chère auditrice, chers auditeurs, que cette partie de la population indécise, ils ont justement peur de tout, incluant l'instabilité, la vie de tous les jours, les a rendus trop fragiles à cette question. La moindre secousse les fait ébranler. Ils ont peur justement d'être déstabilisés. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'ils sont sur un navire voué avec certitude à la noyade et au chaos total. Quand vous interdit la circulation de la démocratie, vous nous annoncez en même temps le début de la révolte. Voilà tout simplement pourquoi Jean Charest devra partir. Et ce n'est pas juste Jean Charest qui fait peur aux citoyens, mais plutôt on trouve d'autres personnes qui le font aussi mal que ça devient assez dégoûtant de les entendre, de les lire. Je lisais justement dans la presse de ce samedi un article écrit par Patrick Lagacé et intitulé « Voter le nez bouché ». Selon le chroniqueur, un groupe d'indécis qui l'ont invité à parler politique. Alors il est soi-disant parti les rencontrer et le résumé de la discussion vient à la fin de l'article bien sûr. Et je cite, tant qu'à me faire fourrer, je vais me faire fourrer par quelqu'un que je connais. Fin de citation. Alors vous comprenez qu'il s'agit du même discours que celui de Jean Charest. Simplement, la texture du langage est différente et un peu trop déplacée. Ceux qui lisent l'article aperçoivent rapidement que le chroniqueur en question avait cherché dans la discussion le fond de sa pensée et il a réussi à trouver dans le résumé que je viens de le lire. Bref, donc vous avez ce chroniqueur et son article, c'est un exemple, un outil du pouvoir qui vient justement gratter la mémoire des personnes vulnérables. Il le dit clairement, libéral et rentré chez vous. Alors si vous le lisez la prochaine fois, suivez son conseil, bouchez le nez, sinon fermez les yeux, ignorez l'auteur et l'écrit. Maintenant, bref, pour Pauline Marois, François Legault, le diable en personne, mais s'il vous plaît, simplement pas Jean Charest. Le changement est quasiment indiscutable. Le changement amène peut-être un petit espoir. Par contre, le maintien de Jean Charest à son poste nous amène au fond d'un tunnel ténébreux. Le 4 septembre, chers auditrices, chers auditeurs, s'approche à grands pas. Et la défaite de Jean Charest s'annonce à merveille. Alors, nous allons tous fêter fortement, non pas l'élection d'un nouveau gouvernement, mais plutôt la disparition d'un homme qui n'a jamais considéré ni l'individu, ni la classe moyenne, et encore moins les personnes les plus vulnérables de cette société. Avec vous ce matin, chers auditeurs, chères auditrices, Hadj Zitouni, président du mouvement Action Justice, un organisme qui, soi-disant, fait la surveillance civile de nos institutions judiciaires afin de prévenir et dénoncer les abus de pouvoir et les injustices dans notre société. Avec moi, comme d'habitude, mon collègue Roland Cazès, qui animera cette émission à mes côtés, nous sommes avec vous tous les vendredis à la même heure. Je vous rappelle que cette tribune est consacrée exclusivement pour vous. Pour vous, si vous êtes victime ou témoin d'abus de pouvoir ou d'injustice, il faut le dénoncer. C'est simplement à travers cette fenêtre dénonciatrice que plusieurs victimes vont prendre courage et passent à l'action, à travers vos témoignages. Chères victimes, les politiciens et les responsables de ces dossiers arrivent finalement à mieux saisir l'ampleur de ce drame, de ce phénomène indésirable contre lequel Nous travaillons tous ensemble afin de l'éliminer de notre décor social, de notre vie de tous les jours. Nous travaillons tous en tant que citoyens responsables pour justement épargner à d'autres citoyens victimes, dans la plupart du temps vulnérables, l'enfer de l'injustice, de l'abus de pouvoir. Et nous souhaitons dire aux victimes de ne pas avoir peur, parce qu'il y arrive souvent que des plaignants refusent de dénoncer leur abuseur de crainte de représailles. Sachez, chère auditrice, cher auditeur, si chacun de nous renonce à ce devoir de dénoncer l'injustice et l'abus de pouvoir dans cette société, cela veut dire que nous engageons tous d'être complices de l'injustice. Et voilà comment peut-on devenir à notre tour des abuseurs. Rappelez-nous au 514-273-4302, je répète, rappelez-nous au 514-273-4302 ou bien nous écrire à info@commercialmage-québec.com. info@commercialmage-québec.com. Nos services sont gratuits et notre action est pleinement à titre de bénévole. Restez à l'écoute, chers auditrices, chers auditeurs. Après notre thème musical, nous changeons de registre, sauf, bien sûr, si mon collègue Roland Cazès souhaite ajouter, bien sûr, d'autres précisions ou d'autres informations concernant la campagne électorale. Restez à l'écoute, vous êtes sur les ondes de Radio Centre-Ville 102.3 FM.
Formidable sur les problèmes de société. Coup des héros et des minables vous parlent en toute liberté. Sont-ils victimes, sont-ils coupables? Ce soir, voici pour commencer quelques racketteurs redoutables qui font la sortie des lycées. Ils vont pour vous mettre à table, à condition d'être masqué, un témoignage inoubliable, un grand moment de vérité. Ce soir, après la roue de la fortune, les racketteurs sont à la lune. C'est une émission fantastique. Vous avez un rôle à jouer, un rôle moral, un rôle civique pour nous aider à retrouver tous ceux dont on est sans nouvelles, disparus, volatilisés. Ce soir, je vous lance un appel, vous seul pouvez nous renseigner. Dans quel bas-fond la malheureuse a-t-elle un jour pu s'égarer? À quelle manœuvre très douteuse a-t-elle fini par se livrer? Ce soir, après la roue de la fortune, la main de ma sœur est à la lune. C'est une émission fracassante sur les tréfonds de la société. Une tranche de vie saignante que vous ne pouvez pas manquer. Un homme qui a payé sa dette, 20 ans de prison mérité, reconstituera en direct le crime qu'il a perpétré. Tout ce qui se passait dans sa tête, combien de fric il a touché en appuyant sur la gâchette pour refroidir un député. Ce soir, après la roue de la fortune, les assassins sont à la lune. C'est une série faramineuse de grands débats télévisés, de controverses fabuleuses, de face à face sans pitié. Entre qui saigne et qui charcute, entre bourreau et torturé, entre un ripou et une pute, un délateur, un dénoncé.
comme une apothéose entre SS et déportés. Ce soir, après la roue de la fortune, un bas obscène est à la lune.
Voilà, donc bonjour chers auditrices et auditeurs, vous êtes toujours avec votre émission du Mouvement Action Justice, une émission consacrée exclusivement à dénoncer les abus de pouvoir et les injustices dans notre société contemporaine. Alors comme je l'avais précisé, donc je vais passer le micro à Roland, mon collègue, il a toujours quelque chose à dire, je pense, surtout dans la campagne électorale.
Ah oui, alors moi j'ai étudié la campagne électorale, surtout les chefs.
Oui.
Alors figurez-vous que j'ai découvert une chose. Ce sont tous des transfuges, des girouettes. Par exemple...
Ça, c'est facile à dire, ça.
Monsieur Charest était conservateur. Oui. Pour 75 000 pièces par année, il est venu siéger sur le Parti libéral.
Oui.
OK. Alors, il a fait un saut du fédéral au provincial. Bon.
Et on a fini.
Alors,
avec
on continue. Ça. Monsieur Amir Kadir, ou moi, je l'appelle Admir Kadir, Legault... Et Admir Kadir qui nous reste.
Attention, Admir Kadir, moi je l'aime bien.
Hein. Moi je vais vous dire une chose, c'est une girouette aussi.
Oh.
Alors figurez-vous qu'Admir
Quelle
Kadir
méchanceté,
était
voilà.
dans le Bloc québécois oui. et il a fondé son parti politique, mais avec les listes du Bloc québécois. Avec Anne-Marie
Anne-Marie Dussault.
Excusez-moi, Madame Dussault. Avec Madame Françoise David. Et là, elle fait de tas de manières, c'est le futur NPD provincial. Rappelez-vous ce que je vous ai dit aujourd'hui, et inscrivez-le.
Je ne suis pas d'accord avec toi.
Et il nous a dit, en tant que séparatiste, oui. n'oubliez pas qu'il se prétend séparatiste, votez NPD. Et lui-même a voté NPD. Comment peut-on être séparatiste et fédéraliste en même temps? Non, j'arrive pas à comprendre.
Il faut s'asseoir avec Amir Kadir pour t'expliquer tout ça. Là.
Ah, c'est lui qu'il faudra qu'il s'explique, mais je pense que... Bon, alors on va continuer. Monsieur Legault, l'égoïste, je l'appelle moi,
oui.
l'égoïste. Monsieur Legault était péquiste et il se trouve maintenant dans la CAQ. Franchement, vous allez voter pour des girouettes?
Mais ils vont voter sur qui maintenant?
Moi, je vous conseille une chose. Nettoyez complètement le système électoral. Toutes ces girouettes qui sont intéressées par quoi? Est-ce que c'est par l'argent qu'ils sont intéressés?
Mais bon,
est-ce que c'est par l'escroquerie? Parce qu'ils ont escroqué déjà des partis politiques pour pouvoir avoir une liste de membres.
Oui.
Moi, je vous dis une chose. Nettoyez ces gens-là une fois pour toutes. Faites-leur comprendre que l'ambivalence... Nous n'aimons pas ça. On est soit d'un parti, soit d'un autre, mais on ne peut pas être de deux partis en même temps.
Alors le 4 septembre, vous allez voter qui
Moi, j'ai déjà voté. Comme ça, je suis certain que mon vote est dans la boîte. Moi, j'ai voté pour, et puis je ne me gêne pas de le
parti
dire, pour Thierry Saint-Cyr à Verdun, parce que M. Gautrin est bien trop vieux, il mérite sa retraite,
oui.
se reposer. Et ça nous prend un jeune pour diriger, parce que les idées jeunes, c'est mieux que des idées vieillottes. Mais écoutez, si l'on regarde, réfléchissez. Vous savez, nous avons la boussole pour ouais. les élections. Ils ont tous perdu le Nord. Tous. Ils ont tous perdu le Nord. La preuve, M. Charest n'arrête pas de parler de fiable. C'est friable qu'il veut dire. Il n'a pas compris. Il s'est mal exprimé. Il a mal accroché dans sa gorge. Il est très friable. Et quant à M. Legault, n'en parlons pas. C'est la friabilité même et l'égoïsme. L'égoïsme.
Oui. mais vous n'avez pas dit un mot à propos de Pauline Marois. Non,
Pauline Marois, boah, tant qu'à faire, je préfère le changement. De toute façon, 2 ans après, elle quittera. Je vous l'annonce, j'ai pris ma boussole à moi, ma boule de cristal. Elle passera 2 ans, elle amènera de l'amélioration. Oui, pourquoi pas, j'ai oui. confiance. Je veux avoir confiance en une femme.
Même si ce n'est pas la personne, c'est le parti qui est le plus important.
Moi, c'est le parti surtout. Puis oui. Dans mon coin, moi, c'est un jeune, M. Thierry Saint-Cyr, et je souhaite qu'il rentre.
Mais tu fais de la publicité.
En toute sincérité.
Tu fais de la publicité ici ou quoi?
Je ne fais pas de publicité, je ne suis pas payé, je ne suis pas une girouette, j'ai toujours voté d'ailleurs PQ.
Oui.
Pourquoi? parce que je suis tanné d'un fédéral, un fédéral qui se dit fédéraliste, qui se dit qui va acheter des avions de guerre, qui va des petits soldats de plomb. Là. Moi, je suis tanné de ces cochonneries là. Est-ce qu'on pourrait plutôt financer les étudiants de façon à évoluer, leur ouvrir le cerveau? Ah oui, on a toujours le bras tendu vers les étudiants. Oui, mais avec une matraque au bout.
Ça, on a compris
et
bien.
Ça, mais ça, je ne le supporte pas. Qu'on frappe sur du monde, qu'il soit blanc, noir, jaune, vert, bleu, j'en ai rien à foutre. On n'a pas à frapper sur du monde. On doit respecter le monde.
Tout à fait.
Et je rappelle à la police, notre système de police, qui cogne avant de pouvoir comprendre que ce n'est pas une façon de faire. Ce n'est pas civilisé du tout.
Et si, Roland...
On doit respecter le monde.
Et si, Roland, le 4 septembre, c'est le Parti libéral qui va prendre la... Qu'est-ce qui va arriver, là?
Le Parti libéral? Ouais. Ben, moi, je déménage en Afrique. Johannesburg. Parce que là-bas, on tue les mineurs, et ici, on les matraque. Alors, ça change pas.
Oui.
Voyez-vous, je préfère aller en Afrique du Sud, là. On va voir des gens plus civilisés qu'au Québec.
Mais vous comprenez, Roland, il y a vraiment une peur bleue. Hein, il y a des gens qui ont peur, hein, réellement. Hein.
Certainement. Ouais, il faut se méfier. Ce gars-là a perdu le Nord complètement.
Ouais.
D'ailleurs, la boussole le dit, la boussole électorale le dit. Il a perdu le Nord. Et il n'est pas fiable, il est friable.
Okay.
Et M. Diouf a fait une analyse que j'ai beaucoup aimée.
Ouais.
M. Charest a le mot fiable dans la bouche. Monsieur Legault, les mêmes propres. Ces gens-là ont les mains trop propres et ils sont trop fiables. Je m'excuse. Moi, je vais le dire et je vais le redire. Quant à Madame Françoise méfiez-vous. Vous allez voter pour un NPD. Ils ont éliminé le Bloc québécois à Ottawa et maintenant ils vont éliminer le PQ au Québec. Alors, nettoyez ce monde-là, s'il vous plaît. Faites un bon nettoyage, que je sois fier de vous, une fois pour toutes. Un référendum, ça vous fait peur, un référendum? C'est tout ce qu'il y a de plus démocratique. Si ça vous déplaît, la souveraineté, vous voterez non. Mais si ça vous plaît, vous voterez oui. Du coup, pourquoi mettre la menace du référendum en avant? Oh, le référendum, hein? Le bonhomme 7 heures. Alors moi, là, toutes les hébraïques, là, les juifs, toutes les, tous ceux qui ont peur d'un référendum, moi je leur dis, calmez-vous. Monsieur Netanyahou est plus dangereux que Madame Pauline Marois. Méfiez-vous. Moi je vous dis une chose, un référendum, c'est tout à fait démocratique. Tout le monde vote, oui ou non, et puis voilà. Mais ne faites pas un drapeau de peur avec ça.
Pour vous, c'est tout à fait normal. Hein.
Moi, je dis, c'est tout à fait démocratique. J'ai confiance au PQ et je suis un des premiers graves si encore on violait les droits des citoyens.
Ouais, ça, c'est votre...
Ah, moi, je serais grave. Attention, je serais très grave. Mais jusqu'à maintenant, je trouve qu'on respecte le droit des citoyens. Alors, je suis d'accord. Je dis, inquiétez-vous pas pour le référendum. Quand ça sera le temps, vous voterez de votre bord et nous voterons de notre bord.
Sondages disent que le Parti québécois, peut-être, il va être minoritaire. Pensez pas que ça sera une bonne
idée.
Si
c'est un gouvernement minoritaire, c'est que vous êtes cave et vous n'avez pas compris. Excusez-moi, je vais vous dire pourquoi. Une fois pour toutes, il faut qu'on ait un gouvernement majoritaire. De notre bord, de chez nous, qui s'occupe de nous, qui s'occupe de nos personnes âgées, malades, qui arrête de taxer la maladie comme si c'était de notre faute qu'on soit malade.
Qui n'aura pas les mains liées, c'est ça?
Eh oui, puis qui n'aura pas les mains liées. Une fois pour toutes, punissons tous ces gens qui ont touché des sommes d'argent exorbitantes à droite, à gauche, de la mafia, de l'argent sale, des gens qui vont chercher une cote sur chaque contrat qu'ils donnent. Et c'est pour ça que nos rues de Montréal sont si belles. Des trous, des bites, de trois trous, une bite, trois trous, une bite, comme disent les humoristes. Et c'est la réalité. Moi, je m'excuse. Mais la route qu'ils font pour le plan Nord, elle va être plus belle que celle qu'on a chez nous. Je vous avertis d'une chose, je me suis plaint des trottoirs de Verdun, et je ne sais pas ce qui s'est passé, ils ont tout d'un coup goudronné les trottoirs qui étaient pleins de grosses gravelles
qui
empêchaient les personnes âgées de circuler.
Mais la plainte,
ça veut dire que nous portons des résultats quand on manifeste quelque chose.
Très bien. Alors, cher Russe, je vous disais, on avait entendu l'intervention de mon collègue Roland, donc on va passer juste à faire une petite pause musicale et on va revenir avec un autre, on change de registre, ok?
Je suis mort de chez moi. mois devait être 9h15 au soir. La mi-décembre, en ce moment faisait plutôt froid. J'ai mis mon capuchon, puis j'ai traversé la rue Sun. J'ai à peine aperçu l'autopatrouille qui accélérait. Une fois dans mon char, je démarre puis tourne à gauche. Direct, je rentre dans la ruelle, me stationner derrière la piole. J'check dans mon rétro, qui que je vois pour la popo. De face, de banane, comme s'il voulait prendre en photo. À peine le pied au sol, on me crie.
Reste dans ton auto,
oui, mais...
reste dans ton auto.
Mais qu'est-ce que...
reste dans ton auto.
Ok, j'ai compris, c'est toujours mieux de rester poli. Mais pourrais-je me m'enquérir de vos motifs pour me coller? Écoute, on t'intercepte en sun cap et sur la tête. Pour ma part, de rétorquer, mais c'est l'hiver qui fait fret. Je vais te donner un indice, présentement il fait moins 10. Difficilement est la caisse, mais bon, il fallait qu'il insiste.
Yo, tout ce que je dis est vrai, si je mens à l'indice.
En fait, à vrai dire, on n'a aucune idée de qui. On veut seulement t'identifier, pourquoi te sentir attaqué. Tu veux savoir pourquoi? First, tu dis que tu connais pas. Mais connais-tu le voisin d'en face ou bien la petite madame d'en bas?
Non.
Connais-tu chaque citoyen de la ville?
Non.
Alors pourquoi susciterais-je plus son intérêt? Qu'est-ce qui me différencie en telle ou telle personne ici? Qu'est-ce qui dans mon apparence fait que tu me demandes mes IDs? Apparemment perplexe, il me répond je sais pas trop. Profilage, la vie n'est fait qu'avec l'aval de ses patrons. Ici à Québec, ça fait partie de la tradition. Laisse-toi coller, ferme ta gueule, surtout faut pas poser de questions.
Non, c'est pas vrai, faut que tu poses des questions. Mais reste poli, reste calme. Prends le matricule en note, prends la date, l'heure. Comme ça tu montes un dossier, mais reste calme.
Bah, souvent il s'excite, dès qu'il pense au sauton. Va demander à Bixi si ta face repose sur le béton. Pourtant une ville tranquille, donc ils n'ont pas grand chose à faire. Beaucoup de jeunes policiers sont bien trop chauds à battre le fer. Tout frais sont pris du four, 22 ans et demi. Une page, une arme à feu, mais si peu d'expérience de vie. Y'a pas de gang, juste un prétexte politique. Tout ce qu'ils veulent sur le budget afin de payer les temps sur. C'est tellement irresponsable de la part de l'état-major. Stigmatisé, pop et black, je leur envoie le doigt majeur. Adepte de la répression, ils pensent qu'ils vont tout régler seuls. Ne leur parle pas de prévention, c'est un concept qui déboussole. Mais bon, pour être honnête, ils sont pas tous des butiniens. Faut pas généraliser, même si c'est plutôt dur d'y croire. Et ce que je te raconte là, les gens l'ont vécu par milliers. Mets ton poing dans les airs si jamais ça t'est familier.
Si jamais ça t'est familier.
Donc voilà, rebonjour, chères auditrices, chers auditeurs. Vous êtes toujours en direct sur les ondes de Radio Centre-Ville, 102.3 FM, avec votre émission, bien sûr, du mouvement Action Justice, une émission consacrée exclusivement à dénoncer les abus de pouvoir et les injustices dans notre société contemporaine. Maintenant, après avoir écouté l'intervention de Roland à propos de la...
campagne électorale.
La campagne électorale, merci Roland. Donc revenons à notre combat, nous, le mouvement Action Justice. Permettez-moi de vous rappeler qu'il y a presque 2 ans de là, nous avons entendu de ce plateau, sur ces ondes, la plainte d'une victime, une grande mère qui a été brutalisée et maltraitée par un policier de la SPVM. Donc il s'agit du matricule 995. Une plainte à la déontologie policière, bien sûr, a été logée par nos services le 8 décembre 2010. Et après presque 2 ans, je dirais même 2 ans et demi, nous venons de recevoir la réponse du commissaire de la déontologie policière, M. Claude Simard, bien sûr après une enquête qui a duré assez longtemps. Il est vrai aussi que nous envoyons quasiment des dizaines et des dizaines de plaintes par année, et nous recevons bien sûr des réponses, dont la grande totalité de ces réponses reçues, déclenchement d'enquête ou non, les plaignants n'ont jamais raison. Il y a toujours une manière de détourner la plainte dans une voie de non-recevoir. Alors vous comprenez, chère auditrice, cher auditeur, l'énorme difficulté à laquelle nous faisons face et la gratuité de nos efforts et nos énergies gaspillées malheureusement face à une institution qui manque largement à son devoir. La déontologie policière, nous l'avons souligné à plusieurs endroits, une institution gouvernementale qui s'abrite sous l'aile du ministre de la ministère de la Sécurité publique et qui ne fait qu'augmenter la frustration du public. Maintenant, pourquoi cette institution qui coûte assez cher aux contribuables constitue une énorme faille dans le système? Qui est derrière le soutien de cette faille? Est-ce qu'un changement de gouvernement pourra améliorer justement la situation, ou plutôt la société civile a négligé sa présence et un tel engagement au point que l'institution en question est laissée à elle-même? Le résultat, je peux vous assurer qu'il est désastreux. Vous allez voir et mesurer l'ampleur des désastres. Ce matin, nous allons revenir sur un incident qui remonte au 29 juin 2010 et nous prenons ce cas comme un simple exemple à citer puisque il y avait une plainte de la part d'une citoyenne victime, il y a une autorité qui a abusé de son pouvoir et finalement l'institution qui est désignée pour rendre justice, la déontologie policière. Alors je vous résume très brièvement l'incident. Une grande mère d'origine libanaise qui habite à Montréal reçoit la visite de son fils avec sa conjointe et sa fille. Alors le fils est dans la fin de la trentaine, arrivant chez sa mère, il sent un mal à l'aise, puis rapidement il fait une crise d'épilepsie. Le cas de son cas lui se dégrade et la belle-fille appelle une ambulance. Une fois les ambulanciers sur place, ils ont constaté que la crise était aiguë et le patient était incontrôlable. Donc ils font donc appel à la police pour les assister. Et c'est à partir de là que le drame d'une grande mère va commencer. 4 policiers de l'SPVM se sont dépêchés sur le lieu, matricule, et je cite, 1432, 1223, 995, 3492. Alors écoutez, 3 de ces policiers ont porté main forte aux ambulanciers, et le quatrième, je parle du matricule 995, s'est positionné devant la porte de la cuisine. Je vous rappelle, chère auditrice, que le patient se trouvait à l'intérieur de la cuisine. Et juste quelques secondes avant l'arrivée des policiers, l'un des ambulanciers avait demandé à la mère de lui apporter une serviette. Jusque-là, tout déroule bien. Mais une fois la mère du patient est revenue avec la serviette pour la remettre à l'ambulancier, l'agent matricule 995 l'a interdit de se rendre à la cuisine. Alors l'arrivée des policiers, vous comprenez, avait irrité le patient au maximum et la mère tente toujours de rejoindre son fils. Alors le policier le pousse loin, elle insiste, il le repousse encore une fois. Et à sa troisième tentative, ou à sa quatrième, elle finit par dire au policier qui l'empêche de passer « Tfou !» Autrement dit, elle émit le son de cracher sur quelqu'un. Dans la culture justement libanaise et orientale, il arrive souvent que les gens qui sont trop fâchés, pour insulter quelqu'un, ils lui disent « Tfou !» Mais pas forcément d'envoyer sa salive. C'est un crachat, c'est ça exactement, Roland. Alors c'est exactement la version de madame, une version maintenue depuis l'événement. Le policier raconte plus tard qu'elle avait craché sur lui. Et nous ne sommes pas ici justement aussi pour faire le procès de ce qui dit vrai ou non. Mais nous sommes en train de, et j'essaie, de vous montrer un exemple parmi des centaines où l'autorité abuse de son pouvoir. Alors le policier matricule 995 s'est senti piqué dans son orgueil. Alors selon vous, qu'est-ce qu'il va faire dans une telle situation? Est-ce qu'il va parler à la dame pour la calmer en lui expliquant qu'il est là pour venir justement en aide à son fils et qu'ils vont le transporter par exemple à l'hôpital et que les choses vont s'arranger? Bref, quelques mots pour sécuriser cette mère que vous allez dans quelques instants de nouveau l'entendre. Mais non, il n'y a rien de tout ça. Le policier, après avoir poussé la dame plusieurs fois, il finit par agripper ses cheveux par une main, alors que l'autre lui assène des coups violents sur la tête. Pour finir, il l'a jeté sur le sol et l'a menotté. Je profite vraiment, je préfère, si vous voulez, ne pas dire plus, puisque je l'avais rencontré avant hier pour lui annoncer que le commissaire n'a pas cru à sa version. Malgré les rapports médicaux, malgré les photos et les blessures, malgré toutes les preuves, le commissaire n'a pas retenu sa version. Conclusion de la décision que nous avons reçue ce mois, et je cite, en conséquence de ce qui précède, la plainte contre les intimés est rejetée, sauf en ce qui concerne le reproche de lui avoir manqué de respect ou de politesse pour lequel l'intimé est cité devant le comité de déontologie policière. Fin de citation. Vous allez peut-être me demander, chère auditrice, chers auditeurs, pourquoi il y avait une plainte contre les 3 autres policiers alors qu'ils n'ont pas touché la dame. La réponse est que les 3 policiers avaient vu, constaté l'attitude de leurs collègues et ils n'ont pas dénoncé son comportement puisque l'article 260 de la loi sur la police dit « Tout policier doit informer son directeur du comportement d'un autre policier susceptible de constituer une infraction criminelle ». Fin de citation. Alors ce que nous trouvons encore plus désastreux dans cette histoire, c'est que les policiers, écoutez bien, les quatre policiers ensemble ont déposé une plainte au criminel contre cette pauvre grand-mère pour voie de fait. Et elle devra faire face à la justice le mois prochain. Et pourtant, il n'y avait aucune accusation à son endroit la journée de l'événement. Cette accusation est venue beaucoup plus tard. Les policiers savent très bien que la victime va déposer une plainte contre eux. Avant de vous faire entendre le témoignage de cette victime, je précise à vous le dire. D'abord, peut-être je la décris. Hein. Donc, il s'agit d'une grande mère. Visiblement, elle est malade et fatiguée. Elle souffre d'obésité au point où elle a tout le mal de la terre, si vous voulez, à lever un bras plus haut que sa poitrine. Cette histoire l'a complètement jetée par terre. Et même après 18 ans de vie au Québec, elle a encore de la difficulté à s'exprimer librement français. Alors nous allons juste faire une petite pause musicale, bien sûr, très rapide. Et nous allons écouter ce témoignage de Madame Hatmi, Shams Hatmi, cette Libanaise victime d'une brutalité policière. Et abusif, où le commissaire d'adiotologie policière, comme des centaines et des centaines d'autres dossiers, a rejeté à revers de la main la plainte de cette plaignante-là.
Excusez-moi, si vous permettez, juste une seconde.
Oui.
Depuis quand les policiers se mêlent d'intervention médicale? C'est une infraction à la médecine.
Voilà, moi, vous ne pouvez pas sentir, quand j'ai des dossiers comme ça, j'ai un mal, mais j'ai une grande tristesse au fond de moi et ça...
Les policiers commencent à se prendre pour d'autres.
Alors
Il est temps de les remettre en place.
Alors, chère auditrice,
et de les renvoyer, les foutre dehors.
Chère auditrice, chère auditeur, je vous invite à écouter une petite musique et puis on va revenir au témoignage de Madame Hatmi et son avis à propos de cette décision qui vient de tomber, la décision de la déontologie policière de rejeter, de blâmer, si vous, d'acquitter les policiers en question. Merci, monsieur.
Y'a tellement de prophètes que plus assez de croyants. Y'a tellement de bombes, le monde a l'odeur du sang. Y'a tellement de fonctionnaires, pourtant y'a rien qui fonctionne. Y'a tellement de fonctionnaires, pourtant y'a rien qui fonctionne. Rien pantoute, rien pantoute. Oh, y'a tellement d'autoroutes, pourtant tout est à la déroute. De New York à Bagdad, du Congo à Beyrouth. Tout le monde répond à tout, mais ne font que semer le doute. C'est écrit gros dans le ciel, l'humanité fait banqueroute. C'est écrit gros dans le ciel, faut qu'on vire de bord. On me dit sois bon envers Dieu, mais ton voisin c'est un pouilleux. Il est peut-être dangereux, il est peut-être dangereux. Attention aux pauvres dans rue, c'est des voleurs, c'est connu. La mondialisation c'est bon, ça fait rouler l'économie. Ceux qui y croient pas, c'est des fuckés, c'est des bandits. On est tellement heureux, vive la démocratie. Ah, je suis tellement écolo que je me permets quatre autos. J'chambre toujours l'eau, j'écris des deux bords de la page. Ce que je fais le samedi, je lave mon entrée de garage. J'excelle à l'ouvrage, puis mes enfants sont bien sages, mais je les connais pas pantoute. J'ai eu 48 mariages, 49, je m'en rappelle plus. Ah, j'ai beaucoup voyagé, Cuba, Turquie, Tunisie. Le monde est tellement fin, puis on des crises de belles plages. Genre, j'amène mon complexe hôtelier. Ben non, voyons donc, j'ai ben trop peur de me faire attaquer. Ça fait que je reste là, me faire bronzer. Puis j'ai la bière à volonté, oh yeah. Puis j'aime tellement la nature, mais je déteste les fourmis. Je suis tellement mature que je m'amuse plus dans mon lit. Au lieu, j'ai deux skidoo, puis une grosse Ferrari. Je me loue des films porno les jours où ce que je m'ennuie, oh yeah. Vive ma petite vie. Ah ben, je me tiens informé de ce qui se passe dans le monde. Le dimanche soir, j'écoute Guy Lepage. Je m'assis dans ma chaise avec ma bouffe micro-ondes. Je regarde même les nouvelles, puis je lis les journaux. Je comprends pas toujours tout, mais je me sens tellement mieux dans ma peau. À tout le monde, dis que ça va mal, moi je dis que c'est quand même pas si pire. De toute façon, je serai mort quand explosera Montréal. Mon jardin est clôturé, je veux pas qu'on m'achale, faut qu'on respecte la loi. Je dis toujours bonjour à police, la liberté c'est une de mes valeurs fondamentales. Mais pour y avoir droit, faut être occidental.
Alors voilà, bonjour chers auditrices, chers auditeurs. On va maintenant directement écouter le témoignage de Madame Shems Atem Shems, cette résidente citoyenne de Québec qui vit ici depuis 18 ans. On l'a rencontrée avant-hier suite à la décision que nous avons reçue de la déontologie policière. Et je vous laisse écouter son témoignage. Bonjour Madame Atem Shems. Nous avons déjà fait une... on vous a déjà rencontré, vous avez fait une émission de radio. Vous avez fait déjà, excusez-moi, vous avez fait déjà une émission de radio. Et vous avez été brutalisé, agressé par un policier. En quelle date?
Le 29 juin 2010.
2010. Et vous avez jugé nécessaire d'envoyer une plainte à la déontologie policière. Est-ce que c'est exact?
Oui.
Alors après, combien de temps depuis presque deux ans et demi?
Deux ans et demi.
Vous venez de recevoir une réponse de la déontologie policière.
Oui.
Après une enquête, bien sûr. Et dans cette décision, le commissaire, il a rejeté votre plainte carrément. Autrement dit, le commissaire, il vous dit que ce n'est pas vrai, que le policier ne vous a jamais frappé.
Oui, c'est ça,
vous
c'est bien ça.
De... Oui, c'est ça.
Manquer de respect.
Pouvez-vous nous rappeler un petit peu les faits?
Oui, le 29 juin 2010, est passé quelque chose de grave dans ma maison. Oui. Mon fils a fait une crise d'épilepsie. Ma belle-fille
a appelé l'ambulance,
est arrivée l'ambulance, et après les policiers, ils sont venus,
oui.
Mais ils étaient trop bizarres, ils étaient trop agressifs à la maison.
Parce que votre fils était un petit peu...
Il était trop par terre, il était trop...
Il souffrait,
et par terre, il ni bougeait, ni rien.
Oui.
Et moi, j'ai pensé que mon fils n'est pas vivant.
Oui. Alors, j'ai compris que les ambulanciers vous ont demandé d'aller chercher des serviettes. Oui.
Je suis allée de chercher des serviettes. Je veux rentrer à la cuisine. Il y en a des policiers avec...
Des policiers ou un seul policier devant la porte?
Il y en a un policier
devant la porte.
Il y en a deux policiers dans la cuisine. Il y en a deux ambulanciers dans la cuisine. Il y en a un policier dans le salon,
oui,
qui empêchait ma belle-fille rentrer. Il y en a les bébés qui crient.
Ça, c'est pas grave. Madame, mais vous apportez les serviettes
pour
et vous voulez rentrer...
Parce que mon fils respire beaucoup.
OK, la sueur.
Il y en a les sueurs.
La sueur. Et vous allez chercher les
serviettes pour
et vous voulez rentrer à la cuisine où votre fils il était avec les ambulanciers.
Oui, j'ai comme entendu les policiers, ils ont comme... c'est pas bon avec lui, on réagit mal avec lui, on tirait mal, ils ont enlevé mal.
Ok, ça on a compris. Mais le plus important, vous avez voulu
rentrer à la cuisine
pour amener les serviettes et en même temps être à côté de ton fils, c'est ça?
Oui, pour voir lui comment.
Et là, le policier vous laisse pas rentrer?
Non, il n'a pas laissé.
Est-ce qu'il vous a parlé, madame?
Non. Il m'a poussé comme ça.
Il vous a poussé.
Je veux insister de rentrer une autre fois. Il m'a poussé.
Okay.
J'ai dit fou. Il m'a tiré avec mes cheveux.
Il vous a grippé les cheveux?
Oui, il m'a tiré les cheveux. Il m'a attrapé les cheveux. Il m'a jeté par terre. Il m'a commencé.
Il a commencé à vous à faire
commencé
quoi?
Commencé à jeter par terre. Il m'a commencé à attraper mes cheveux. Il m'a enlevé un bout de ma cheveux comme ça.
Et t'as arraché les cheveux quelque... Oui.
Et m'a arraché les cheveux.
Là, vous étiez par terre. Vous étiez par terre.
Oui, ah, okay. Par terre. Il m'a fait mes mains derrière moi.
Okay.
Il m'a attrapé les mains avec... Il m'a commencé, il m'a donné des coups.
Vous avez noté?
Oui. Il m'a donné des coups. Après, il m'a menotté.
Oui.
Et sur une boîte pleine des affaires sur ma tête ici, il m'a donné des coups. Après, il m'a...
Est-ce qu'il vous a donné des coups, vous a grippé les cheveux, vous a jeté par terre parce que vous lui avez dit tout, c'est ça?
Oui, peut-être.
Ouais, c'est ça.
Pour vous, c'est ça. À penser que quelque chose mal, mais nous, on dit quelle mauvaise journée, quelque chose de ça. Mais moi, je ne sais même pas.
Pour vous, c'est une expression, quand vous êtes fâché, oui, vous dites fou.
Oui, c'est ça.
Okay.
Parce que mon fils, il était tombé par terre. Ouais. Moi, on sait que mon fils...
C'est pas grave, madame. On connaît un peu l'histoire.
Après, tout le monde sont sortis de la cuisine. Ouais. Mais les ambulanciers encore sont regardés moi. Ils ont frappé moi. Ils ne disent rien.
Qui vous a frappé, madame?
Le policier.
C'est le même, un seul policier.
Un seul policier qui me frappait. Ouais. C'est pas les autres. J'ai pas vu les
Alors,
autres.
Alors, ce que j'ai compris, madame, c'est qu'après que les ambulanciers, ils ont sorti votre fils, c'est
oui, de la cuisine, ils ont mis à côté de moi. Il m'a dit, après qu'il a retourné, il m'a dit, donne-moi ta main, maman, il veut m'aider. Il m'a dit, mon fils, donne-moi la main.
C'est votre fils qui a voulu demander. Mais le policier vous a amené dans la cuisine ou qu'est-ce qui est arrivé?
Ils ont enlevé mon fils de la cuisine.
Ils l'ont sorti de la cuisine,
à côté de moi. Ils ont dit, il m'a dit, donne-moi la main, il veut m'aider, mon fils.
Celui qui était sur le...
Qui était malade il est retourné. Mais ils m'ont resté 2 heures dans la maison, les policiers et les ambulanciers.
Ça, on a compris, madame. Alors il rentre.
À rentrer, elle m'a traîné vers la cuisine.
Ouais. C'est le même policier toujours.
Le même policier, il m'a... encore a commencé à me donner des coups avec ses bottes sur ma tête, sur ma ventre.
Vous étiez par terre?
Par terre, avec des menottes, à me menotter. Il m'a commencé à me donner
des coups
sur ma tête avec leurs bottes.
Ouais.
Comme j'ai tué sa mère, comme j'ai fait, je ne sais pas pourquoi.
Okay. Mais vous, après ça...
C'est pas...
Oui.
C'est pas drôle, c'est pas...
Et je sais qu'après ça, ils vous ont sorti dehors.
Après, il m'a sorti dehors avec des menottes. Il m'a dit, marche devant la porte, tout le monde me regardait.
Tous les voisins étaient à l'extérieur.
Tous les voisins dehors, j'ai vu plusieurs...
Qu'est-ce qu'il vous a dit, madame, quand vous
Grosse vache, marche grosse vache.
Ça, c'est le même policier que vous a frappé.
Le même, oui, okay. C'est lui.
Attends, j'ai compris. Maintenant, vous
il
avez...
Il m'a mis dans la voiture avec un masque.
Ok.
Il m'a bouche.
Mais ce que j'ai compris, madame, aussi, c'est que vous avez fait une plainte en déontologie policière et vous attendez, vous avez pensé quoi? Pourquoi vous avez fait une plainte à la déontologie policière?
Pour
chercher une justice ou quoi?
Pour chercher la justice, pour
et après,
peut-être, madame, après 2 ans et demi, je n'ai pas vu la...
La décision, elle est venue?
La décision de la commissaire.
Le commissaire, il dit que ce n'est pas vrai.
Ce n'est pas vrai, il n'a pas frappé. Comment il n'a pas frappé le bleu que j'ai resté 1 an sur moi?
Ouais.
Je suis allée chez le docteur et dans la poste de police, ils m'ont donné de la glace tout le temps, ils m'ont... Vu tout bleu, ils m'ont donné de la glace quand j'étais là-bas.
Ça veut dire, vous avez, le moment que vous ont frappé et tout, vous étiez témoin de toutes les blessures.
Je ne suis pas sortie de la maison, moi, un bout de temps.
Vous avez gênée. Excusez-moi, madame Atmi, vous avez des bleus partout dans votre corps, c'est ce que vous disiez.
Oui, dans le ventre.
Et ça, vous avez envoyé, madame, vous avez envoyé à la déontologie policière, vous avez envoyé des photos.
Oui,
qui prouve comme quoi vous avez reçu des coups partout
mais
sur votre corps.
C'est pas beaucoup de photos, quelques photos.
Combien de photos vous avez envoyées, madame?
Mais je ne sais pas ce qui a fauté, c'est vous. 6 photos peut-être.
5-6 photos?
Oui.
Et sur toutes les photos, on voit clairement comme quoi il y avait des bleus là, des gros bleus là.
Oui,
Madame, après 2 ans et demi, vous attendez qu'il y aura une justice, parce que n'oubliez pas aussi que les policiers, ce policier-là qui vous a frappé, il vous poursuit, lui, pour voie de fait. C'est-à-dire, c'est vous qui l'a frappé. Et ce n'est pas juste lui Comment ses collègues, excusez-moi madame Atmi, c'est pas juste lui, parce qu'il y a lui et ses trois collègues, ils ont mis une plainte contre vous de voie de fait. Et vous êtes poursuivi de voie de fait. Vous recevez maintenant la décision, vous recevez maintenant la réponse de la déontologie policière qui vous dit comme quoi c'est pas vrai, le policier en question ne vous a jamais frappé. Quel est le sentiment que vous avez aujourd'hui? Qu'est-ce que vous sentez aujourd'hui?
Qu'est-ce que je veux sentir? Je réagis mal, je suis mal, j'ai pas goût de sortir dehors, j'ai pas goût de voir quelqu'un, j'ai pas goût, j'aime pas Canada, j'aime pas rester ici, j'aime pas, il n'y a pas de justice, je suis une femme moi, je suis pas un homme, pourquoi il m'a frappé comme ça? Moi je vois pas les autres policiers, pourquoi moi je suis malade.
Vous êtes grand-mère, madame.
Moi, je suis grand-mère. Oui. Moi, je suis moi maintenant. Je suis tout le temps, je reste seule. J'ai dit pourquoi moi? Pourquoi moi? Oui. Pourquoi?
Vous trouvez ça injuste, madame?
Oui, injuste. Oui. Oui. Il n'y aura pas de justice ici. Depuis que je suis là, je trouve pas moi.
Combien
je...
d'années vous vivez ici au Québec, madame?
Depuis 18 ans.
Depuis 18 ans, c'est ça? Est-ce que vous avez eu des problèmes avec la police avant?
Non.
Jamais, c'est la première fois?
Jamais, c'est la première fois.
Et là, pourquoi? Vous découvrez que c'est un problème, un grave problème?
Oui, c'est très, très, très grave pour moi, ouais. Parce que j'ai jamais fait de problème, jamais.
À personne?
Non.
Hein?
Non.
Et maintenant, vous êtes poursuivi par les policiers. Et vous devrez aller à la cour et tout. Vous trouvez ça quoi?
Je trouve ça, pour moi, c'est la honte. C'est la honte. C'est la honte.
C'est honte. C'est une honte pour le Québec, c'est ça?
Oui, peut-être. Pour une femme, parce que peut-être je suis libanaise, je ne sais pas.
Vous ne savez pas pourquoi aujourd'hui?
Oui, vraiment, je ne sais pas. J'aimerais aller à l'ambassade, j'aimerais aller au Liban, dire qu'est-ce qui est arrivé avec moi. J'aimerais aller sortir dans la rue, faire une révolution, comme une petite marche, dire qu'est-ce qui est arrivé ici avec moi. Peut-être qu'on est quelqu'un à...
Vous souhaitez que tout le monde sache ce qui
est
arrivé?
Oui, c'est ça que j'aimerais.
Vous voulez dénoncer cette situation?
Oui, ça j'aimerais.
J'espère que tout
parce que j'ai dit à la télé... J'ai appelé à quelqu'un à la télé, il m'a dit oui, on est arrivé quand? Et on dit c'est avec la policier, t'es arrivé avec nous, il veut pas venir chez moi.
Vous avez appelé la télévision?
Oui,
TVA,
TVA.
TVA?
Oui.
Et quand vous avez
avec
dit...
quelqu'un Poirier et Claude Poirier.
Oui. Il a refusé de venir.
Oui.
Pourquoi?
Je sais
vous
pas.
Vous savez pas pourquoi?
Non.
Oui, c'est bien dommage. Alors, madame, merci pour votre témoignage.
Merci.
Oui, donc voilà, rebonjour, chers auditeurs, chers auditeurs. Vous avez tous entendu, écouter le témoignage de cette dame-là. Alors.
Merci, monsieur Zitouni. Oui. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a un rapprochement avec la famille qui a été attaquée à Saint-Hubert?
Non, mais avant
la
de.
La famille Mayou.
Non, mais Roland, avant
ça
de.
Ça ressemble énormément à ça.
Mais Roland, juste, je veux rappeler les auditeurs.
Non, parce que des fois, les gens peuvent penser c'est des Libanais, ils ont une mentalité spéciale et tout ça. Mais les Mayou sont des Québécois que la police a passé même au poivre de Cayenne des enfants de 9 ans.
Non, mais,
des femmes et tout le monde.
Roland, vous allez. C'est vrai parce qu'il y a une certaine catégorie de la population qui sont vulnérables, telles que madame, aujourd'hui, et ils sont faciles, hein, des proies comme ça, faciles pour l'abus de l'autorité. Alors, je rappelle que les quatre policiers qui ont intervenu ce jour-là, on parle du matricule 1432 1223 995 34 92, et plus précisément, vous voyez que la dame, depuis sa première rencontre que j'ai eue avec elle, j'ai eu plusieurs rencontres, elle n'a jamais changé de version. Elle a toujours dit qu'il y avait juste un seul policier qui m'a frappé et qu'il s'agit justement du matricule 995. Et alors, j'étais surpris de voir comme quoi les autres policiers, ils ont déposé la plainte. Alors, vous voyez qu'il y a une plainte. Vraiment, c'est absurde. Hein. C'est vraiment absurde. Je comprends plus, là.
La fédération du syndicat des policiers les protège trop. Comme des policiers ont 2-3 cas sur leur dos, on devrait leur enlever la syndicalisation à ces policiers-là, de façon à ce qu'ils serrent les fesses la prochaine fois, parce qu'on peut les foutre dehors.
Ouais, mais ce que je voulais dire, Roland, c'est que À ce moment-là, je ne pense pas que Jean Charest, il pense à cette femme-là, hein, comme je ne pense pas, à cette femme-là, et des centaines de personnes comme cette femme-là, aujourd'hui. Alors, même dans la campagne électorale, on n'a pas entendu, hein, on n'a pas entendu parler un peu des abus de l'autorité, des injustices et tout. Ça,
Écoutez, donc, le Premier ministre se sert des policiers à ses propres fins, oui, pour la réunion du Parti libéral à Victoriaville. Oui. Vous le savez, et il n'a pas payé la facture.
Mais je ne pense pas que si c'était la mère ou la conjointe de M. Charest qui était la victime, je ne pense pas que c'était la même. La pensée, elle va changer. Hein. Chers auditrices, chers auditeurs, vous savez bien que je pense que personne parmi vous n'aimera que sa mère ou sa grand-mère soit traitée de cette manière-là. Et c'est là où nous devrons tous se rejoindre sur ce point-là, que notre travail, hein, nous avons énormément de travail à faire devant nous.
Savez-vous qu'il y a des bons policiers qui sont des bons policiers, mais il y a des espèces de bâtards, de lâches qui frappent des femmes, qui frappent des vieillards, qui frappent des gens qui sont dans l'incapacité de se défendre, ils se sont servis de cette femme parce que cette femme ne sait pas s'exprimer.
C'est pas juste ça.
Et ils en ont profité.
C'était la partie vulnérable.
Hein. Voilà.
Vous allez maintenant, ce qui nous dérange au plus haut degré, c'est vraiment voir cette institution, la déontologie policière, qui, quasiment la totalité des dossiers sont rejetés. Alors, quelle est la solution?
Écoutez, nous avons passé Mme Bray, nous avons passé Mme Tournier.
Il y a des centaines de gens
qui sont honorables, qui travaillent, qui ont un travail, même Mme Tournier.
Mais j'avais posé la question.
L'insertion sociale dans les prisons fédérales.
Mais Roland, j'avais posé justement.
Qui a été frappé par les policiers.
Roland, j'avais posé la question au départ dans la préface de cette émission. J'avais demandé est-ce que c'est vraiment. Pensez-vous qu'un changement de gouvernement apportera un changement à cette institution-là, ou bien c'est vraiment le rôle de l'institution de la société civile? Les citoyens, c'est eux qui devront aller changer tout ça.
Ça suffit, il y en a assez. C'est terminé. Les policiers ne peuvent pas être juges, bourreaux et policiers. Ouais. Ils n'arrêtent pas de vouloir jouer les bourreaux. À Verdun, ils frappent un gars parce que le gars était en prison, là, il est tranquille, il s'assoit sur un banc avec des amis, il jase. Ouais. On trouve qu'il occupe un banc et on veut le frapper, on le maltraite et tout ce qui s'ensuit. Les policiers ne sont pas supposés maltraiter les citoyens. Ce sont des agents de la paix.
Oui, donc vous avez tous, chères auditrices, chers auditeurs, vous avez entendu l'histoire de cette femme-là. Alors je vous laisserai le dernier mot à vous tout seul, de dire votre jugement, hein, comment on peut rendre service à cette société-là. Comment est-ce que
notre âme et conscience, et se dire si c'était notre mère, notre grand-mère ou notre sœur,
qui acceptera ça. Chers auditrices, chers auditeurs, nous arrivons malheureusement au terme de notre émission, donc nous souhaitons bien sûr un bon courage à Madame Atm, cette victime-là, Shams Atm, qui habite à la ville de l'Anjou, et nous allons probablement suivre le reste de la catastrophe, puisque les quatre policiers, imaginez-vous, les braves policiers de l'SPVM qui poursuivent une grand-mère, hein, elle n'est même pas capable de lever le bras. Si vous la voyez, si vous le voyez vraiment devant vous, c'est catastrophique. Allez, voilà, je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine.
Non-stop sur les Antilles. Une émission de variété. Un plaisir à la découverte. Une émission à savourer sans modération.
Musique, information, éducation, histoire, débat.
Non-stop sur les Antilles.
Mardi, 12h30. Sur Radio Centre-Ville, 102,3 FM.
C'est un rendez-vous.
Ici Soundproof et
Pascal.
Entre un café et le trafic, Urban Ways, une façon de débuter le week-end.
Tous les vendredis matins, de 8 à 9, où l'on parle actualité, culture, musique dans un vibe chill.
Et recevez les conseils de nos différents chroniqueurs. Alors stationnez-vous.
Fermez la porte du bureau.
Urban Ways, tous les vendredis matins, 8 à 9.
Le CAMO PI fait la promotion de la main-d'œuvre immigrante comme solution gagnante au développement du plan Nord.
Le comité d'adaptation de la main-d'œuvre pour personnes immigrantes, le CAMO-PI, est financé par la Commission des partenaires du marché du travail pour développer des stratégies visant à accroître l'intégration des personnes immigrantes en emploi. Pour obtenir plus d'informations sur nos travaux et recevoir notre bulletin d'information électronique, visitez le camo-pi.qc.ca.
Salsa, reggae, camba, zouk, lambada, bossa nova, fado, Tagamuffin, Mala, Tango, Samba, Merengue, Bachata, Jazz, Chansonnette française, Soukous, Rock francophone, Funk, Blues, Techno, Drum and Bass. Toute la musique du monde sur le 52,3 FM. Radio Centre-Ville, nous mettons l'accent sur le monde Montréal.